the sun of the morning, I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space.
Il est 20h02 et tout de suite, retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. Comme vous l'entendez, ce n'est pas Florian qui présente ce soir. Il nous écoute peut-être depuis Barcelone, où il a la chance d'être en voyage. Mais cependant, on a quand même une grande équipe ce soir autour de la table avec celui qui n'était pas là la semaine dernière. C'est Cédric. Salut Cédric.
Et salut tout le monde. Ouais, retour. Je reprends mon poste de titulaire, moi aussi.
Bah ouais, tu nous avais manqué.
C'était pas parce que j'étais blessé, hein. Les aléas du travail, hein, les horaires, quand on finit à 20h30, c'est un petit peu dur de venir le mardi.
Ouais, en effet, avec l'émission qui commence à 20h, ouais. Ça fait short.
Ça aurait pas été intéressant de faire un duplex depuis le travail.
En plus, dommage ce que l'éduc avait gagné. On verra que c'est différent cette semaine. Un autre qui m'accompagne, qui était là, lui, la semaine dernière, c'est Mathéo. Salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Ça va très bien de mon côté. Écoute, on n'a pas la chance d'être à Barcelone, mais on est ici. C'est déjà très très bien et je suis très content parce qu'on a une belle émission en préparation aussi.
Ouais, on a plein de choses à vous raconter ce soir. Et le dernier autour de cette table, c'est Amaury. Salut Amaury.
Salut Faustin, ça va super bien. Et puis, bah, comme l'a dit Mathéo, un beau programme aujourd'hui, donc hâte que ça commence.
Voilà, on va commencer sans plus tarder. Avec le sommaire, on démarrera par le JT local et les résultats qui sont plutôt bons, j'ai envie de dire, du côté de nos clubs locaux. On va ensuite parler de la retraite d'un très grand du tennis, Raphaël Nadal. Vous l'avez sûrement vu passer. On passera la pause musicale. On écoutera du Lille TK. On passera ensuite évidemment au journal international qui prendra une grande partie de cette émission, car nous n'avons pas d'invité ce soir, avec notamment des débats autour d'Antoine Griezmann ou encore une chronique de moi-même sur Vince Carter.
Quoi, tu vas t'auto-faire une chronique sur toi-même? Oh là là.
Sur moi-même?
Ah, t'as dit une chronique sur moi-même?
Non, j'ai dit par moi-même, à moins que je me suis mal exprimé.
Oh, t'as peut-être le même ballon que Vince Carter.
Au moins.
Le même précise lequel, ouais. Attention là.
Bon, on va commencer sans plus tarder, on va rester dans le basket, mais avec le basket local et l'UFAB 49 qui ont gagné face à Villeneuve-d'Ascq à domicile, une victoire qui n'était pas que peu de gens avaient pronostiqué, 80-77, première grosse perte des Angevines cette saison qui viennent de battre une équipe habituée du classement qu'ils avaient sorti l'année dernière en play-off. Elle reste ainsi invaincue sur cette saison pour le moment en 3 victoires et 0 défaite à égalité avec l'ASVEL. Et elles ont enchaîné avec une autre victoire en Eurocoupe cette fois face à Lublin 92-69, une victoire maîtrisée, une assez large victoire. Elles jouent jeudi en Grèce face au Panathinaikos. Du côté de l'EAB, ça se passe moins bien, car en 2 matchs cette semaine, ça leur a fait 2 défaites, la première 68-78 face à Levallois et la seconde 84-70 face à Tarbes. On espère que cette série de défaites va vite s'arrêter et qu'ils vont pouvoir se relancer. En tout cas, ils jouent ce soir en Coupe de France contre La Rochelle à Jambon. On essaiera de vous tenir au courant du résultat tout au long de l'émission. Du côté de Cholet désormais, changement d'ambiance car cette fois c'est 2 matchs et 2 victoires. La première contre Fribourg 90-75 en Coupe d'Europe et la seconde 82-59 face à Saint-Quentin. Comme l'UFAB, Cholet est toujours invaincu en Betclic cette saison et se hisse à la première place du classement. On va aller sur de l'air maintenant et du côté du Sco Rugby, même chose, un week-end très prolifique avec une victoire pour les U16 nationaux, les U18 nat, l'Excellence B, la Fédérale 2 féminine et la Fédérale 3 masculine. Est-ce qu'ils sont toujours invaincus en championnat? Mathéo, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Sco Rugby qui gaze?
Eh bah oui, ça marche très très bien pour le Sco Rugby en ce moment. Comme tu l'as dit, 4 matchs, 4 victoires, 4 bonus offensifs également, ce qui les hisse tout en haut de leur groupe avec 20 points. Donc j'imagine que c'est une grande satisfaction du côté du Sco. En plus, dans ces victoires, on en avait notamment une contre Blois. Blois qui avait éliminé le Sco l'année dernière en 32e de finale de Fédéral 3. Donc cette année, peut-être que la montée en Fédéral 2 est dans les petits papiers et ce serait super parce qu'on l'a vu, nous on les a déjà reçus dans l'émission. Ouais. D'ailleurs, pour les auditeurs qui avaient loupé ça, je vous redirige vers l'émission. Alors, ça date de cet été.
Ouais,
voilà, j'ai pas les dates.
Dans les JO,
c'était dans la grande soirée, la première édition.
Voilà, on avait reçu.
De la finale du rugby à 7, si.
C'est ça. On avait reçu Victor Vara, le coach de cette équipe. Et voilà, je pense que c'est un club qui porte des valeurs et c'est très très bien qu'il se porte aussi bien.
Bah oui, c'est clair. Là, ils sont en train de rouler sur le championnat. C'est tout simplement magnifique de voir un club qu'on a reçu gazer autant. On va retourner sur les parquets cette fois du handball parce que le score handball continue de sombrer, j'ai envie de dire, en subissant une nouvelle défaite 34-31 contre Ponto Combo. Amaury, est-ce que t'as des stats, des choses à nous dire sur ce match?
Ouais, le SCO qui restait donc sur un match nul la semaine dernière, il n'y a pas eu que des défaites, on va essayer de voir le petit côté positif, mais ouais, qui affrontait Ponto Combo. Donc Ponto Combo, on le sait, c'est une équipe qui joue la montée hein, tous les ans, ça fait quelques années qu'ils n'y arrivent pas, mais à chaque fois c'est haut du classement. Le SCO qui en plus y allait avec pas mal d'absents sur le côté gauche, notamment des ailiers, des arrières en moins. Et malgré ça, ils ont fait un bon match. Alors oui, il y a une défaite, mais ils ont fait un bon match, une super première mi-temps. Ils ont mené 7-4 d'entrée au bout d'une dizaine de minutes, 16-14 à la mi-temps. Mais il y a un événement, Gaspard Pommier, hein, le pivot de l'équipe, qui prend un carton rouge à la 27e minute. Alors au hand, un carton rouge, c'est seulement 2 minutes à un de moins, mais après ce joueur-là peut plus rentrer. Et donc la deuxième mi-temps, avec le manque de rotation dû à quelques blessures, quelques absences, fait que le jeu se dégrade, un peu plus de perte de balles. Et finalement, Ponto Combo qui prend l'avantage, victoire 3 buts. Mais j'ai envie de dire que j'y vois du positif. Sur les 3 derniers matchs, c'est mieux. Donc maintenant, va falloir prendre des points absolument.
Ouais.
Semaine prochaine, c'est contre Clermont, je crois. Et Clermont qui a que 2 points de plus que le SCO au classement. Va falloir prendre des points.
Un match à prendre. Est-ce qu'il y a de la suspension suite au carton rouge ou
Non, au hand, pas de suspension derrière un carton rouge. À part si c'est un carton bleu. Mais ouais. Le carton bleu, c'est grave.
Mathéo, tu voulais réagir?
Ouais, je sais pas si t'avais prévu de parler de la baie du SCO en handball.
Non, pas du tout.
Moi, j'ai été voir le match week-end, donc je peux en parler aussi brièvement. Ouais. La baie du SCO qui a gagné son premier match, justement, face à Plessé. 33-32, c'est pareil, c'était un match assez complet de la part des Angevins. En fait, ce qui a fait plutôt la différence, c'est ce qui a coûté à l'équipe A, c'est la rotation. En fait, dans les 10 dernières minutes, le club a pris 4 points d'avance et ne les a pas lâchés jusqu'à presque la fin. Et a réussi du coup à s'imposer. Première victoire de la saison pour le SCO B en handball.
Mais voilà, au moins une bonne nouvelle au SCO handball. Voilà,
ça arrive.
Dans ce début de saison, ça fait du bien, je crois, au club.
Si le SCO 3 ne peut ne pas trop gagner, ils sont dans ma poule, donc.
tu nous tiendras au courant quand tu joueras contre eux, en espérant que tu gagnes quand même.
Hein. Exactement.
Maintenant, du côté des Ducs à l'Ice Park, c'est pour eux aussi une défaite après une grande série de victoires. Ils ont perdu 3-1 face à Marseille et ils jouent ce soir contre Anglet. Cédric, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce bon début de saison des Ducs malgré la défaite? C'était jeudi dernier, il me semble.
Ah, je sais plus quand c'était les matchs, mais non, ouais, pour une préparation qui avait été compliquée. Mm-hmm. Parce que je crois qu'il y a que des défaites de mémoire. Un début de saison plutôt intéressant quand même. 8 matchs joués, 7 victoires. Contre quand même déjà des gros adversaires. Hein, le match contre Grenoble, voilà, le 5-1. Faut se rappeler que quasiment à la même époque, l'année dernière, on se prenait le 5-1 à Grenoble. Donc ça a bien réagi par rapport à ça. L'équipe a l'air de tenir. Perdre contre Marseille, en soi, c'est pas forcément non plus surprenant. Moi, je l'ai dit l'année dernière, quand ils sont montés et qu'ils ont joué les playoffs, c'était un peu l'écurie du renouveau, mais qui avait les armes pour faire douter.
Ouais.
Là, je pense que cette année, ils sont dans la deuxième année. Normalement, la plus dure, celle où t'es censé confirmer. En tout cas, ils sont déjà bien partis, puisque là, ils sont quatrième avec 17 points. Et quand on voit que, pour l'instant, une équipe comme Rouen est à huitième ex aequo, et on sait que normalement, c'est une équipe qui devrait déjà être...
Première, largement.
Enfin, pas forcément première, mais en tout cas, dans la longueur... pour être bien en avance pour la fin de saison, pour être favorite, pour être dans le top 3, quoi. Ça prouve qu'il y a eu du travail entre les matchs de préparation et le début de la saison, que le changement de joueur et d'entraîneur, pour l'instant, il a l'air de payer.
Ouais.
Voilà, une petite défaite au bout de 7 matchs, enfin de 8 matchs. Ça fait quand même un bon bilan. La mission ce soir, elle est gagnée, parce que je pense que ça va être une période où on va pas avoir beaucoup de hockey à domicile. Là, on va enchaîner beaucoup de matchs à l'extérieur. Il y a peut-être le match de la Coupe de France qui va se glisser dans le calendrier, ou pareil, ça va être intéressant. Je sais pas si vous en avez parlé, mais on va jouer contre Poitiers. Donc l'avantage, c'est que ça se joue à domicile ou à l'extérieur, ça va être accessible. Et il me semble que de toute façon ça va se jouer à Angers, puisqu'on sait que le puck on a vaguement parlé, mais ça va être l'occasion de faire des choses justement avec les supporters.
De mettre un peu d'ambiance.
Voilà, donc ce match-là risque d'être très sympa en termes d'ambiance. Après avoir en termes de résultats, on sait que l'année dernière, la Coupe de France, ça n'a pas été fameux, l'aventure. Donc, à voir. Mais en tout cas, on est rassuré sur l'avancement de la saison des Ducs.
Ouais, c'est clair. Parce que je me rappelle qu'on était pessimiste un peu, justement, quand on voyait les matchs de préparation. On disait, le top 3 s'éloigne grandement pour les Ducs, pardon. Mais au final, ça va.
Finalement, il fallait peut-être mieux faire un démarrage. Tranquille, travailler ses gammes, se prendre des pions et puis là les mettre, hein, parce qu'il y a quand même des belles victoires en termes de chiffres et d'écart.
C'est pas mal déjà.
Donc
voilà, une saison bien lancée pour les Ducs. Une équipe qui est un peu au contraire est décevante, c'est le SCO. Il n'y a pas eu de match cette semaine pour cause de trêve internationale, mais je propose qu'on revienne un peu sur ce début de saison. Qui est moyen, voire mauvais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le SCO est dernier du classement de Ligue 1. Aucune victoire encore pour le moment. Mathéo, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison du SCO?
En fait, on va se répéter par rapport à ce qu'on a dit les dernières fois, mais il n'y a pas forcément que du négatif dans cette équipe du SCO, dans ce qu'on a vu sur le début de saison. Le problème, c'est l'irrégularité des différents postes. Sur certains matchs, la défense va être présente, va être au rendez-vous. On a notamment vu Jordan Lefort qui a fait un très bon début de saison à ce niveau-là. Et puis des fois, ça va pas marcher. Des fois, c'est l'attaque qui marche bien. Des fois, c'est l'attaque qui marche plus. En fait, le gros problème du SCO aujourd'hui, c'est que dans la transition offensive, si tu effaces Abdelli, derrière, c'est compliqué. On a quand même pas mal de rotations au niveau de l'effectif aussi. Quand on voit Bamba Dieng qui a fait quand même des bons matchs, on sent que c'est un buteur qui a sa place en Ligue 1, qui a même sa place peut-être dans un club plus haut que le SCO.
Ce qu'il avait avant.
C'est ça exactement, et puis c'est son projet. Je pense quand il rejoint Lorient aussi, c'est parce qu'il y a un projet plutôt conséquent. Donc à ce niveau-là, le SCO, il n'y a pas forcément que des mauvaises choses, même au niveau du milieu de terrain. Je pense à Jean-Eudes Aoulou, sur lequel j'étais un peu pessimiste, parce que l'année dernière, il n'a pas joué du tout avec Strasbourg, même si c'est quand même quelqu'un qui a un historique derrière lui, notamment en Ligue 1, mais qui monte en puissance. Donc est-ce que cette trêve va faire du bien, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'internationaux au SCO? Peut-être. Je l'espère. Et puis derrière, on a des matchs qui vont être hyper importants, notamment contre Saint-Étienne, où là, il va falloir choper les 3 points et c'est inévitable.
Ouais, ça, faut les laisser un peu monter en puissance tout au long de la saison, parce que pour l'instant, ça a du mal à démarrer, mais à juste titre, ça joue des grosses équipes. Les points récupérés sont un peu miraculeux.
Comme la montée, hein, d'ailleurs.
Comme la montée.
Faut le dire aussi, parce que le score repart de loin. La saison où on descend, c'est quand même une saison. Compliqué.
Historique dans le mauvais sens du terme.
Exactement.
Ouais, la remontée était pas prévue, je pense.
Non, pas du tout, je pense.
Déjà par les supporters et par
les résultats.
Le club.
Ouais.
Ouais, et du coup, bah on le voit, hein, ça galère pour l'instant. Mais bon, les points chopés à Strasbourg et à Marseille font quand même du bien. Amaury, peut-être des mots à dire sur le SCO?
Non, mais je sais pas, je t'entendais dire parler de gros clubs qu'ils ont affrontés. Le problème de cette Ligue, bah le problème, et en même temps, c'est bien, mais de cette Ligue 1 à 18 clubs aujourd'hui, c'est que bah des petits clubs, il y en a plus tant que ça. Là, j'ai le classement devant les yeux, je regarde, et en fait, à part Montpellier, Le Havre, Auxerre, peut-être Saint-Etienne, qui sont dans les dernières positions, et ben en fait, on regarde au-dessus, c'est Rennes, c'est Brest, c'est Nantes, c'est Nice, si on regarde le classement. Bah, c'est pas du tout des petits clubs, quoi. Et le SCO, eh bah, il y a pas beaucoup d'équipes où quand le SCO se déplace ou reçoit, et où on se dit, bah, ouais, le SCO va prendre les trois points ce week-end. Donc, il va falloir absolument être irréprochable sur ces matchs-là face aux dites petites équipes, parce que sinon, ça va être très compliqué. Or, oui, le SCO a pris des points face à Marseille, face à Strasbourg, qui sont peut-être des équipes qui, elles, vont jouer plus haut, bien plus haut. Mais je pense que c'est pas ce qui va se reproduire beaucoup de fois dans la saison. Donc, ce sera sur ces matchs-là qu'il faudra être très vigilant et prêt.
Ouais, voilà. Donc, le SCO qui doit relever la tête et ne pas manquer les grands rendez-vous comme Saint-Etienne qui arrive prochainement.
Et déjà Toulouse.
Oui,
en Toulouse premier aussi.
Ouais. Toulouse d'abord, oui, c'est vrai.
C'est pour ça, par rapport au classement, c'est deux matchs. C'est déjà des matchs à la limite à aller-retour que tu joues puisque. Tu peux pas te permettre de perdre trois points sur, surtout sur Toulouse, qui est vraiment proche. Hein. Tu gagnes contre Toulouse, tu repasses
devant.
Potentiellement 16e. Et cette année, je sais pas s'il y a un match de barrage.
Oui, ça reste pareil.
C'est
la descente directe et un barrage.
C'est peut-être triste à dire, mais il va falloir aller chercher, je pense, pour le SCO. Allez, grand maximum, une 13e place pour essayer de se maintenir.
Oui. Puis le problème de l'ascenseur aussi, au-delà des barrages, c'est qu'on a beaucoup d'équipes de Ligue 2 aujourd'hui qui ont un projet assez conséquent. On en parlera tout à l'heure du Paris FC, mais on a beaucoup d'équipes qui toquent à la porte et qui proposent de vraies choses. Donc c'est là aussi la difficulté, et je pense que Metz, l'année précédente, en a fait les frais.
Et puis financièrement, c'est jamais bien pour un club de faire l'ascenseur.
Ah non. Et même sportivement, des joueurs qui viennent pour un projet Ligue 1, qui redescendent en Ligue 2... Bah, ça leur plaît pas.
C'est ça, et ça va être compliqué de gérer la fin de saison aussi.
Les joueurs restent une année, repartent. Il y a aucun derrière, aucune continuité, voilà, quoi.
Donc, financièrement, c'est mal. Et dans le projet sportif, c'est compliqué aussi. Donc, on espère que ça va pas faire ça pour le SCO, qu'ils vont réussir à jouer des coudes et trouver de quoi se maintenir.
Ah, pas trop, parce que les cartons rouges, ça va vite.
Et les arbitres sont sévères, apparemment, en Ligue 1.
Je croyais que t'aimais le hockey.
Bah oui, mais c'est pas du foot. Ok.
Mais des coups de crosse.
On a le droit de se rentrer dedans.
Mais oui.
Mais voilà, du coup, pour ce qui est du SCO et du journal local, on va démarrer le journal international avec Amaury qui va nous parler de Raphaël Nadal.
Et oui, hein, ce week-end, le monde du tennis a tourné une page historique. Raphaël Nadal, l'un des plus grands champions de l'histoire, a officiellement tiré sa révérence en portant avec lui un palmarès immense. 22 titres du Grand Chelem, dont 14 remportés sur la terre battue de Roland-Garros, 36 Masters 1000, 2 titres olympiques, on l'oublie aussi un petit peu. Le Mallorquin a totalement redéfini l'excellence dans le tennis. Mais Nadal, c'était bien plus hein, qu'une simple machine à gagner, c'était la rage de vaincre. C'était un joueur qui puisait dans ses dernières réserves pour renverser des situations désespérées, que ce soit ses duels épiques face à Roger Federer ou Novak Djokovic. Oui, j'étais obligé de les citer. Sa capacité à revenir après des blessures ou son incroyable humilité en tant qu'homme qui a conquis hein, le cœur des fans bien au-delà des cours. Aujourd'hui, alors que Rafa raccroche définitivement la raquette, il laisse derrière lui un héritage immense. Son impact sur le tennis, mais aussi sur le sport en général, ne disparaîtra pas de sitôt. Nadal était un symbole d'abnégation et de respect, aussi bien envers ses adversaires que son sport. Pour ma part, Nadal restera le sportif étranger que j'aurais le plus soutenu. En tant qu'enfant, il m'a fait rêver, ses exploits sur les courts, et évidemment, cette surdomination à Roland, je regarderai des souvenirs à vie que je pourrais raconter dans de nombreuses années. Et d'ailleurs, en parlant de souvenirs, maintenant qu'on sait que c'est terminé, parmi tous ces accomplissements, je me demandais, est-ce que vous, il y en a un qui vous a marqué plus que d'autres, ou si c'est plutôt l'ensemble? Je sais, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Mathéo, je me tourne vers toi pour commencer.
Ouais, bah oui, bien sûr. Hein. C'est peut-être au-delà d'un sportif, c'est une marque énorme, Raphaël Nadal. Donc forcément, qu'on consomme ou pas du tennis, c'est vrai qu'on en a forcément entendu parler. Ce duel à trois aussi, je pense que on reverra peut-être jamais ça dans le tennis, même si chacun avait sa petite spécificité. Et Nadal, c'était la terre battue, tout simplement. Moi, en tant que qu'individu, je sais pas du tout ce que je pourrais garder de la carrière de Nadal parce que j'ai pas été un énorme consommateur finalement de ce qu'il a pu produire. Peut-être. Alors là, pour le coup, j'avais 5 ans, donc c'est difficile d'en parler. Je l'ai pas vu ça pour le coup, mais je me suis renseigné un petit peu et ce que je trouve le plus choquant, au-delà de ses 14 titres à Roland-Garros, c'est sa victoire en 2008 où il perd aucun set.
Il y a
assez énorme comme
il y a 4 Roland-Garros où il ne perd aucun set.
Ah ouais,
4 Roland-Garros où il ne perd aucun set.
C'est démentiel. À Roland-Garros, c'est vraiment le monstre ultime. D'ailleurs, il y a ce calcul qui est assez facile à faire. En fait, c'est qu'aujourd'hui, si jamais il y a un jeune qui arrive dans le tennis, qui a un énorme crack et qui veut battre le nombre de Roland-Garros gagnés par Nadal, faudrait qu'il aille jusqu'en 2039 pour l'égaler, 2040 pour le battre.
On commence à 20
ans. N'importe quoi.
On commence à 20 ans, on doit plus perdre jusqu'à ses 34 ans.
Ouais,
c'est inimaginable.
Voilà. Donc oui, Nadal, forcément, c'est un souvenir génial. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a des valeurs énormes. Il y a pas longtemps, j'écoutais justement une intervention radio de Humbert. Qui justement parlait de ça en fait, qui parlait notamment du fait que Nadal il connaît tout le monde et quand il parle avec quelqu'un derrière il va pas l'oublier, il peut proposer des entraînements avec certains également, donc c'est quelqu'un qui est porteur de valeurs énormes et dans le sport aujourd'hui c'est plus rare.
C'est sûr. Cédric, toi un souvenir particulier sur Nadal ou pas?
Forcément, j'irais plus sa victoire quand même à Wimbledon. Ouais. Contre un Federer.
Elle a marqué.
Peut-être la première défaite dans la longue. Pareil, Nadal avait la terre battue, et Roger, il avait l'Angleterre pour lui, le gazon. Après, il n'y a pas forcément d'image qui marque de lui, hormis ses tics. Ça, par contre, c'est impressionnant. Le nombre de tics qu'il avait, que ce soit entre les sets, pendant les sets, enfin ça par contre c'est impressionnant. Ça en a agacé plus d'un sur les terrains.
L'image de la bouteille à
la
chaque
bouteille,
fois
qu'il revient. Si elle est déplacée d'un centimètre, mais des fois tu le sentais. Il faisait son set derrière, ça se passait mal. Tu voyais, il remettait ses bouteilles, hop, toc, puis il s'en partait. Enfin, après moi pareil, je l'ai vu évoluer, hein, parce que quand il est arrivé sur le circuit, quand même. Un peu détestable, un peu à l'image d'un Djoko, où pareil, c'est des joueurs à fort caractère, et à côté, t'avais un Federer qui était déjà j'aime pas le terme lisse, mais comparé aux autres, qui était, voilà, plus dans les bornes, voilà, le
gentleman.
Gentleman, oui, voilà, le côté, vraiment, esprit tennis, alors que t'avais des Agassi, t'avais des John Borg, tout ça, qui dépassaient les limites, qui était un peu qu'on révolutionne un peu aussi le truc. Et voilà, il a su évoluer, il a su faire évoluer aussi quand même son jeu, et rien que ça, voilà, on peut que l'apprécier. Moi, j'ai jamais été un grand fan, hein. J'étais toujours plus team Federer, donc forcément l'année où il est malade et que Federer gagne Roland Garros, bon bah t'es content, mais tu te dis il a quand même voulu cette finale là qu'il a gagné comme ça Roger, mais
on est content quand même que Roger Federer il est sans Roland Garros.
Mais voilà, oui, bah, ça permet d'avoir le grand chelem. Mais voilà, non, après il y a son application maintenant, ouais, auprès des jeunes avec son académie. Alors je sais pas si c'est toujours son oncle qui la gère et qui entraîne, mais en tout cas je pense que voilà, maintenant il va avoir un peu plus de temps pour lui. Je pense qu'il va aussi peut-être plus se recentrer là-dessus, peut-être continuer à promouvoir aussi le tennis auprès des jeunes, des choses comme ça. Bon, puis bon, je pense que on va le revoir un petit peu sur les tours, allez, d'ici 2-3 ans, peut-être qu'on reverra Roland Garros, hein, sur les tours classiques, choses comme ça, quoi.
J'ai envie de faire une prédiction. En juin l'année prochaine, il n'a pas eu sa cérémonie à Roland Garros parce qu'il a dit qu'il ne savait pas s'il arrêtait. J'imagine qu'en juin, il aura le droit à quelque chose de beau.
Ouais, alors ça, je ne suis pas sûr non plus, vu le manque de respect, clairement, l'année dernière de la Fédération française. Ça, c'est ce qui a un petit peu, je pense, c'est aussi décidé un peu de sa fin de carrière, au-delà du fait que bon bah le corps suit moins.
C'est lui, hein, qui avait pas voulu de fête entre guillemets, hein,
l'année
dernière.
Bon, la Fédé ne veut pas lui accorder une white card, alors que ça avait été déjà fait pour d'autres joueurs. Enfin, je comprends que derrière t'as envie de dire non, mais c'est bon, ne venez pas me faire une fête. Surtout voilà, au vu en plus du match que c'était. tu le fais jouer en plein de journée. C'est un match qui te jouait clairement en dernier match de la soirée. C'est le match de gala. C'est peut-être le dernier. C'est pas un match lambda. Et même, voilà, si en face c'était quelqu'un de bien, de classé, je trouve ça dommage. Enfin, en termes de traitement, c'est son histoire d'amour avec Roland Garros. Je pense qu'elle a été un petit peu gâchée avec ça. Puis bon, après, bah, les JO, c'est dommage. Il y avait quelque chose à écrire avec Alcaraz. C'est passé à pas grand chose, hein, mais bon, il y a.
C'est pareil, pas spécialement des joueurs de double, hein, donc.
Ouais, mais enfin, pour l'histoire, ça aurait été,
ah oui,
magnifique.
Ça aurait été magnifique.
Le passage de relais.
Le passage de relais avec un titre, tu vois.
Et par contre, au JO, on retiendra aussi l'image avec Zidane pendant la cérémonie, où je pense qu'on a tous été un peu choqués. C'est le fait que ce soit pas un Français pendant la cérémonie, et alors que normalement, on met en avant les sportifs de son pays, ça dit quand même toute l'importance qu'il a à Paris avec Roland Garros, c'est ce qu'il a pu prendre. Parce qu'on a tous, je pense, bien apprécié ce moment entre Nadal et Zidane.
Bah après, ouais, c'est vraiment des gens qui ont marqué aussi l'olympisme à ce moment-là, qui vont emmener la flamme vers les athlètes vraiment françaises. Je trouve aussi, ouais, c'était, bah, ça fait partie, voilà, de sa légende. Si l'Espagne, à mon avis, d'ici quelques années, organise les JO, je serais pas surpris qu'on le retrouve en potentiel. Dernier relayeur, ou en tout cas bien placé pour amener la flamme.
Je pense que oui.
Ouais, avec deux médailles d'or, c'est assez évident.
C'est sûr.
Un des plus grands sportifs espagnols, je pense qu'on est un peu tous d'accord.
Ah oui, je pense qu'on peut. Il est plus cité que certains joueurs de. Enfin, je pense pas forcément pour les Espagnols, mais pour le monde entier, je pense qu'ils te diront plus facilement à Nadal.
Bah. Si tu prends par exemple Iniesta qui a pris sa retraite très très récemment, je pense que celle de Nadal a fait plus de bruit que celle de.
Oui, Nice. Voilà, oui.
Bah la chose aussi, c'est qu'Iniesta, il était au Japon depuis maintenant presque 6 ans, donc je pense que c'est un petit peu atténué la chose. Après, je pense que c'est de légendes du sport, c'est pas comparable. Clair. Il y en a un sport collectif, l'autre sport individuel, c'est compliqué à comparer. Faustin, d'ailleurs, en parlant de Nadal, tu veux ajouter un petit truc ou on a
non,
déjà
bah...
été.
Vous avez à peu près tout dit, mais c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est sa domination, hein, notamment c'est tous ces titres à Roland Garros, c'est du jamais vu, ce sera jamais égalé, ou en tout cas peut-être qu'on le verra pas de notre vivant, tellement c'est énorme ce qu'il a fait. Et ouais, voilà, hein, et ses tics, moi aussi, c'est vrai, ça m'a beaucoup marqué quand j'allais faire des tennis avec mon père qui mettait 40 ans à servir pour imiter Nadal, c'était quelque chose.
D'ailleurs, en parlant de domination, j'ai quelques chiffres à vous donner. 3, comme le nombre de matchs joués en 5-7 par l'Espagnol à Roland-Garros. Seulement Félix Auger-Aliassim, John Isner et Novak Djokovic ont réussi à pousser Nadal en 5-7. On a aussi 4, comme son nombre de défaites, mais en 18 participations à Roland-Garros. Donc 2 contre Novak Djokovic, pas n'importe qui. 1 contre Söderling. Alors celle-ci, elle avait surpris, c'était en 8e de finale en 2009, si je dis pas de bêtises.
C'est l'année où il est malade.
Ça doit être ça.
C'est ça.
Ça doit être ça, oui. Et donc en 2009, où il avait déjà remporté ses 4 premiers Roland Garros, et donc il était en route pour le 5e de suite. Finalement, défaite contre Söderling et la dernière contre Zverev l'année dernière dans les conditions qu'on connaît en retour de blessure. On a aussi 37 sur 370. C'est le nombre de sets perdus. On aurait pu le faire dans l'autre sens, ça aurait été encore mieux. Mais donc 1 set sur 10 seulement de perdu, c'est-à-dire qu'il perd un set tous les 3 matchs. C'est dire la domination. Et enfin, peut-être l'un des chiffres les plus marquants, 39, comme le nombre de victoires consécutives du joueur entre 2009 et 2015 à Roland-Garros. Je pense que c'est impressionnant. Et je me demandais juste si on pouvait classer, toujours compliqué, mais ces 14 titres à Roland-Garros comparés, par exemple, aux 8 ballons d'or Lionel Messi, aux 100 points de Will Chamberlain, à quel point c'est un record qui est inatteignable ? Mathéo, je sais pas si tu veux.
Ouais, bah alors déjà, je vais juste te rajouter un dernier chiffre, voilà, pour le plaisir, 20, comme le nombre d'années depuis laquelle il se traîne cette blessure, qui lui fait arrêter le syndrome de Müller-Weiss. Voilà, mais sinon, donc, pour revenir un petit peu sur le comparatif, alors déjà, c'est compliqué parce que c'est pas des, alors c'est des récompenses, hein, forcément, mais c'est pas la même chose que le Ballon d'Or, puisque le Ballon d'Or, c'est, bah voilà, c'est des choix de journalistes, avec tout ce qu'il y a derrière, hein, on a vu, oui, il y a eu pas mal de polémiques sur les Ballons d'Or de Messi, donc, je pense que c'est peut-être plus prestigieux, ouais. Ouais, je dirais. Après, c'est pas la même chose parce que c'est pas non plus les mêmes sports aussi. Mais là, on parle, c'est comme si, allez, on va dire, Messi avait remporté 10 années de suite la Liga, quoi.
Et dans le sens prestige, mais dans le sens atteignable, est-ce que tu penses que on a plus de chances dans les 50 ans à venir de voir une personne refaire ça ou de faire
Ouais, je pense. Je pense parce que dans le foot aujourd'hui, l'image de marque elle prime et on le voit avec Messi quand il gagne son ballon d'or alors qu'il est à Miami, je pense que c'est plus l'image de marque qui rayonne que l'impact réel sportif. Donc à ce niveau-là, ouais, je pense que là aujourd'hui avec Mbappé, ça a pas suivi parce que derrière les résultats, en plus il était un peu bloqué au PSG, ça a pas marché en Ligue des Champions. Mais le jour où il y a un autre joueur qui arrive, qui surperforme dans un club comme le Real, le Barça, ou qui remet par exemple le Milan AC sur le devant de la scène en gagnant des Ligues des Champions, bah à partir de ce moment-là, oui, très clairement, c'est quelqu'un qui gagnera 4-5 ballons d'or. Ça a plus la même valeur qu'à l'époque où par exemple Platini en a gagné 2.
Déjà c'était.
C'était déjà génial, enfin trois même Platini.
Oui, trois plutôt, c'est ce que je dirais.
Donc et à l'époque, ça c'est un truc de malade. Aujourd'hui, un peu moins.
Non, puis c'est beaucoup plus dur de faire ce qu'a fait Nadal maintenant.
En plus, puis c'est 14 ans.
C'est 14 ans.
C'est 14 ans de haut niveau.
Et ouais. C'est surtout que pendant un moment, on va pas dire qu'il y avait les quatre géants et puis en dessous, c'était vraiment injouable pour eux. Mais maintenant, tu regardes, t'as toute la jeune garde qui est arrivée d'un coup et... Le seul qui reste, pour l'instant, c'est Djoko. Mais le jour où il va partir, on va s'éclater parce que je pense que les matchs vont devenir tellement indécis. Il y aura peut-être Roland Garros encore où ouais. Il y aura peut-être une domination parce qu'on a l'air d'avoir un petit Alcaraz qui a l'air de bien tenir en tout cas sur la terre battue. Mais quand tu vois comment ça bouge à l'US Open, en Australie, aux États-Unis, ça devient de plus en plus dur de dire ouais non c'est sûr c'est un tel qui va gagner ouais. Malgré ses résultats et tout. C'est...
Mais encore une fois, est-ce que le numéro 1 ATP aujourd'hui ça a pas la même valeur que le Ballon d'Or dans le sens où est-ce que Sinner c'est réellement le meilleur joueur du monde? Bah, après c'est pas pareil, mais
100% lié aux performances. Après c'est est-ce que tu joues plus de tournois que les autres, est-ce que dès que t'as une blessure évidemment ça va remettre en cause ça. Après, moi, je dirais quand même plus que oui, parce que c'est celui qui est le plus régulier. C'est pour ça que Nadal a été moins numéro un mondial, par exemple, que Djokovic, qui était beaucoup plus complet que Nadal, mais qui était moins, qui n'a jamais autant dominé sur une surface, même si bon, l'US Open et surtout l'Open d'Australie, il connaît bien notre ami Novak.
Après, faut pas oublier, c'est que c'est un classement qui est jamais remis à zéro. Donc mine de rien, c'est bon ça. Alors, je te rejoins sur le côté celui qui est premier, c'est pas forcément le meilleur, on va dire, sur toute une saison si on prend, si on faisait
même
comme pour un club. Oui, voilà, même individuellement. Ouais, tout ça.
Faustin, pas spécialement.
Mais pour revenir sur les ballons d'or aussi, c'est vrai que Messi, si on prend son exemple, il était un peu en 1-1 ouais. Contre Ronaldo, alors que là, Nadal, il était plus en 1-1. Federer.
J'ai même envie de dire 4 sur une période avec Murray qui était au niveau.
Ouais, c'est vrai. Même il y a eu Wawrinka année, on a parlé en off tout à l'heure avec Matteo.
Avec son magnifique short cette année-là.
Wawrinka en 2017, où d'ailleurs il remporte son 10e Roland-Garros, Nadal.
Ouais, voilà. Donc c'est une perf d'autant plus impressionnante que sur la longévité, que pendant toutes ces années il a réussi à battre les mêmes mecs qui étaient pourtant au top de leur forme et les meilleurs dans leur sport. Donc ce sera du jamais atteignable à mon avis.
Et bah je pense qu'on peut clôturer cette
première partie d'actualité internationale et on va passer tout de suite à la pause musicale et on va s'écouter Dead or Alive de Lil Tecca.
Canadian goose, I know you lose him, how you get him? I won't take it, bitch. Yeah, I told him, I make money, money don't make this shit. Change my life off BME, so why would I fake this shit? They try to take my flow.
solve it if that shit a problem. Nigga, I was getting guala, I said fuck a promo. I was rocking bitch when I seen y'all niggas rocking times. When you feel like this, no, you wouldn't even change your flaws. Took my time to get this shine, but I still skip the line. I realized the hoe still on my mind, I guess the bitch divine. And yeah, I could do this shit myself, that's dead or alive. And yeah, you can care about just yourself if you picking sides. Niggas thinking that they gang, they not even squad. Yeah, I told them if you getting played, then you play the part. Really, I know I can't cheat my ways, you know who we are. Talking crazy, now he in the sky, told him pick a star.
Et voilà, c'était Dead or Alive de Lil TK sur le 101.5 FM de Radio G, ou bien si vous écoutez sur le site internet www.radio-g.fr. J'ai loupé celle-là.
On t'en veut pas, Faustin.
Vive le retour de Flo. Hein.
Bref, pourquoi j'ai mis cette musique? Tout simplement parce qu'elle est issue du jeu NBA 2K25, sorti récemment, et dont la jaquette de l'édition ultime est un certain Vince Carter, dont je vais vous parler dès maintenant, car dans la nuit de dimanche à lundi a eu lieu la cérémonie du Hall of Fame. En gros, c'est une cérémonie qui sert à graver pour toujours les noms des plus grandes personnalités de la NBA dans son histoire. Et cette année, un des joueurs intronisés était Vince Carter. À titre personnel, c'est mon joueur préféré de tous les temps. C'est avec lui que j'ai envie de regarder la NBA. C'est lui qui m'a donné l'envie de sauter toujours plus haut en voyant ses dunks incroyables. Et c'est lui qui m'a donné cet amour pour les Toronto Raptors. Je vais rappeler son palmarès pour que l'on se rende compte du personnage qu'il est. Drafté en 1998 par les Golden State Warriors, il est immédiatement transféré à Toronto. Il jouera jusqu'en 2005, mais pendant ses 7 saisons, il a déjà inscrit sa légende, notamment avec le Dunk Contest de 2000, où Vince sortira la meilleure performance de l'histoire du concours de dunk. Je ne suis pas ouvert au débat. Il est par exemple le premier à rentrer son coude dans l'anneau. Vous l'avez compris, Vince Carter est sans aucun doute le plus grand dunker de tous les temps, mais il sait faire bien plus que ça. Il est également le 9e joueur le plus prolifique à 3 points de l'histoire de la NBA, juste derrière un certain LeBron James. Il est également un exemple de longévité avec 22 saisons à son actif, ce qui est un record, et il est également le seul joueur à avoir connu 4 décennies au NBA, car drafté en 1998, il a arrêté sa carrière en 2022 au Atlanta Hawks, où normalement il devait revenir à Toronto, mais il y a eu des problèmes, il a pas pu revenir. J'étais tellement déçu à ce moment-là. Mais bref, c'est un exemple, un trophée de la NBA, je ne sais plus comment l'appeler. Il a également son maillot qui trône au-dessus de la salle des Brooklyn Nets, et très prochainement au-dessus de la Scotiabank Arena de Toronto, qui ont un peu traîné pour lui retirer son numéro, tout simplement. Il a également été médaillé d'or aux Jeux Olympiques, où il a claqué sûrement le plus beau dunk de sa carrière, par-dessus Frédéric Weiss, le dunk of death, pour ceux qui ont la ref. Voilà, c'est une image marquante de sa carrière. Frédéric Weiss en parle encore aujourd'hui comme son pire cauchemar. C'est triste, mais voilà, la légende qui est Vince Carter, et son maillot traîne au-dessus des salles comme celle de Toronto ou des Nets, mais il traîne aussi au-dessus de mon lit, car c'est le premier maillot que j'ai acheté dans mon humble collection. Voilà, c'est évidemment mon maillot préféré. Mais Toronto de 1998 avec le gros dinosaure totalement iconique qui donc trône au-dessus de mon lit toujours pour illuminer mes nuits. Voilà pour ce qui est de Vince Carter. On va passer maintenant au journal international. Je vous laisse prendre la main, les gars, pour nous présenter ça.
Ouais, carrément. Bah, on a pas mal de débats prévus, donc ça va être hyper intéressant. Le premier, forcément, ça va être le plus gros, le plus conséquent, celui sur Antoine Griezmann. Forcément, on parle d'un joueur qui a passé plus de 10 ans en équipe de France. Son premier match, c'était le 5 mars 2014 contre les Pays-Bas. Je vais vous donner quelques stats un petit peu pour qu'on se rende compte de l'impact qu'il a eu dans l'équipe de France. 137 matchs, surtout, donc 84 consécutifs entre 2017 et 2024. C'est le record absolu devant les 44 de Patrick Vieira. C'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Il a également marqué 4 buts en Coupe du Monde, 7 buts en Euro. On pourra revenir aussi un petit peu sur ses buts marquants en compétition officielle. Il a été seulement capitaine pendant 5 petits matchs. C'est peut-être ça aussi qui a précipité sa décision. On va pouvoir y revenir. Et en termes de trophées, avec l'équipe de France, il est vainqueur de la Coupe du Monde 2018 et de la Nations League 2021 en étant meilleur buteur de l'Euro 2016 également, durant lequel bah voilà, il a été jusqu'en finale. On va pas renfoncer un couteau qui est toujours présent dans notre cœur. Mais voilà, autour de la table, qu'est-ce que vous avez à dire sur Griezmann? Je sais qu'on voulait mettre un petit peu ce débat-là. Est-ce qu'il est top 3 équipe de France all time? Faustin, je vais te laisser répondre, ou en tout cas commencer à nous donner une petite break pour cette réponse.
Moi, j'ai envie de dire oui. Pour moi, Griezmann est top 3. Il est troisième, j'ai envie de dire même. Devant lui, je mets Zinedine Zidane et Michel Platini, à mon avis.
Et tu mets qui en 1?
En 1?
Non, c'est trop dur. C'est trop dur.
Méchant.
Parce qu'en plus, c'est deux époques que j'ai pas vécues, donc compliqué de classer. Mais ouais, c'était, je pense, mon joueur. Bah non, peut-être pas mon joueur préféré de l'équipe de France. Il y avait Paul Pogba pour
c'est
le
dur,
style,
hein. Mais ouais, c'est entre les deux, c'est compliqué de choisir.
Mais dans le classement global, c'est clair que j'allais dire Griezmann a plus à porter. On était tous un peu attristés. Vraiment, c'est pas déçu, c'est vraiment attristé. Je pense le mot en voyant son départ à la retraite. On était voilà touchés et c'est un grand monsieur de l'équipe de France. Qui on sait jamais pourrait faire un comeback. En tout cas, on l'espère après s'être fait voler le capitana par Kiki de Montes.
Ah, les mots forts, les mots sont durs de la part de Faustin. Amaury, toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, juste pour aller à l'encontre de Faustin. Alors, une époque que je n'ai pas connue. Hein, je vais pas faire le Hendrick pour les plus jeunes.
On parle pas de Charlton, s'il te plaît.
Non, mais moi, j'ai absolument pas connu. J'ai très peu de connaissances dessus, mais j'ai juste vu des gens en parler de Raymond Coppa, qui aussi à une époque aurait pu entrer dans ce classement. Après voilà, c'est juste pour faire celui qui veut contredire, car autrement évidemment que
et puis mais il est de chez nous,
hein. Et oui, il est de chez nous.
Après Raymond Coppa, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas forcément que l'équipe de France. Là on parle de l'équipe de France en termes de joueurs français. C'est sûr que Raymond Coppa, il est dans le top 3. C'est le premier français à avoir gagné un ballon d'or, c'est peut-être le premier français qui a gagné la Ligue des Champions aussi, ça je saurais pas dire, mais avec le Real, ouais, il en a gagné.
C'est un des premiers en tout cas qui parle étranger, enfin voilà.
En plus, oui. Ouais. Donc il y a vraiment ce truc là avec Raymond Coppa en équipe de France, je sais pas. Je pourrais
J'ai pas
dire
les connaissances non plus, c'était juste pour apporter la petite touche. Évidemment que sinon Griezmann il nous a marqué, je pense que on pourra tous se dire cette Coupe du monde cette Euro 2016, je pense que un joueur de ce niveau-là avec ce style de jeu-là, on n'en a pas vu depuis longtemps et on en reverra. C'est pas un style de joueur qu'on revoit aujourd'hui. Et c'était beau. Cette joie de vivre en plus, ces interviews, ces célébrations Fortnite à l'époque qui nous ont tous fait rire. Franchement, c'est un joueur qu'on a adoré et qu'on va continuer d'adorer avec l'Atlético de Madrid. En espérant, moi j'espère qu'un jour il pourra aller remporter une Ligue des Champions, même si j'y crois peu, mais ce serait très beau pour finir sa carrière en Europe.
C'est vrai que le hors caméra, surtout en 2018, c'était très présent, ça participait un peu à son image. Et toi Cédric, qu'est-ce que t'en penses
de Griezmann? Même en 2024, hein. Info JO quand même sur Twitter.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai,
Il tweetait plus vite que limite les journalistes sur place.
Il était devant sa télé directement. Il avait appuyé sur le bouton. Ouais.
Pas de sens que c'est quand même un amoureux du sport en règle générale. Mais après, c'est dur parce que est-ce que c'est que le fait qu'il ait pas eu le capitana qui fait qu'il arrête sa carrière?
Non, mais pas que ça.
Je pense que ça y a joué quand même grandement.
Il y a la relation avec Deschamps aussi.
Il y a la relation avec Deschamps, et puis je pense que après tout ce qu'il a donné, je peux comprendre aussi que tu sois fatigué de jouer autant de matchs. Mine de rien, ça y joue. Parce qu'il performe, en club. Donc, je pense que l'envie de jouer, elle est toujours là.
Il aurait le niveau.
Il aurait le niveau. Ah oui, clairement.
En plus, ouais, parce qu'il reste au niveau même en ce moment. Ah ouais. Carrément.
Le problème, c'est que on n'a pas voulu lui confier les clés du camion. On lui a même pas donné la chance de pouvoir être un peu plus responsable sur le terrain. C'est non, on te met en second couteau et puis on construit tout autour d'un joueur. On sait que souvent c'est pas la meilleure solution. Et après, sa carrière, c'est triste qu'elle se finisse un peu comme ça. Mais bon, faut garder les bons moments. Il a été quand même là pendant la Coupe du Monde en Russie. Mine de rien, il nous fait un une super Coupe du Monde. Hein.
Moi, je trouve qu'il part quand même sur une bonne note. Il part pas sur une fin de carrière où il est plus dedans, il a plus le niveau.
Ah oui, non, par contre, ouais, mais bon.
Au moins, il force pas pour rester parce que c'est un ancien.
C'est exactement ça. Au moins, il aura pas forcé la fin et il aura pas joué en étant mauvais juste dû à son statut.
Peut-être qu'il, voilà, c'est le fait que aussi des deux joueurs cadres de l'époque 2018 notamment soient partis un peu au compte-gouttes. Ça a joué aussi dans son choix de partir où il sentait peut-être plus sa place au sein de cette équipe. Il était moins à l'aise, il prenait moins de plaisir et plutôt que de gâcher son plaisir à l'équipe de France, il a préféré partir pour pas gâcher toutes ces années de bonheur.
Non, puis bon, enfin, quand on sait quand il a été au Barça, on sait, ça a été compliqué et tout de jouer là-bas. Chaque fois qu'il était en équipe de France, bah il performait. Enfin, c'était pas le mec qui venait à reculons et il donnait tout. Puis voilà. Après, non, c'est dommage qu'il parte un peu comme ça. On verra bien dans quelques années si on en apprend un peu plus sur les motivations.
Ça sortira, ça c'est sûr et certain.
Et c'est surtout que j'espère que la Fédé va quand même faire quelque chose de bien pour ce départ sur un prochain match à domicile. Là c'est vrai que bon, pour le match de jeudi, c'était un peu court, je pense, pour faire une cérémonie, faire un hommage.
Et puis c'était pas en France.
C'était pas en France.
Les deux matchs ne sont pas joués en France.
Non, il y en a eu un en Hongrie.
En Hongrie contre Israël.
D'accord, je suis persuadé qu'ils jouaient à domicile le France-Hongrie. Israël, c'est pour ça.
Devant 8000 personnes en Hongrie, c'est un peu timide.
Ouais. Mais voilà, enfin, en tout cas, j'espère que la Fédé va faire ce qu'il faut, quoi.
Bah, ce serait bien, hein, surtout que c'est un peu le joueur émotion. De l'équipe de France, je pense que même pour nous tous, on a tous vu l'évolution de l'équipe de France de foot à travers ce joueur-là, que ce soit en 2014 quand on est plein d'espoir à la Coupe du Monde et que on se fait sortir par les Allemands de un but d'écart, on le voit en pleurs, c'est aussi l'une des images les plus marquantes de sa carrière.
Et puis ça l'a forgé. Ah bah, clairement, ça l'a forgé pour concrètement ensuite rebondir en équipe de France. Hein.
Et puis c'était l'arrivée aussi de jeunes joueurs comme Paul Pogba qui derrière ont surperformé. Donc voilà, non, débat super intéressant. On attendra la vraie fin de carrière de Griezmann pour revenir un petit peu sur son parcours aussi. Parce que voilà, c'est très long, hein, parler de la Real, parler de l'Atlético, parler du Barça. Donc on va enchaîner sur un autre sujet parce qu'il nous reste 10 petites minutes. Donc il va falloir enchaîner. Celui sur le rachat du Paris FC qui va être racheté donc par la famille Arnault qui deviendra actionnaire majoritaire avec 55% des parts du club, Red Bull aussi 15% et puis l'actuel propriétaire Pierre Ferracci garde 30% jusqu'à au moins 2027 qui seront ensuite intégrés aux 55% de la famille Arnault. Qu'est-ce que vous ça vous évoque justement ce genre de projet qui commence à fleurir dans le football français? Faustin, est-ce que toi ça te parle justement?
Ça me fait penser, enfin c'est pas tellement la même chose, mais au rachat du club de Newcastle, c'était il y a un an ou il y a deux ans, je sais plus bien.
Oui, non, ça devait être un an et demi, non, peut-être deux ans, mais t'as raison.
Je pense que le temps passe vite, hein, pour moi, on est entre deux et trois ans, je pense presque, hein, ça passe vite. Hein.
Ouais, carrément, c'est possible.
Voilà, un club, c'est pas dans les mêmes dimensions non plus, hein, parce que Newcastle était déjà en première ligue, mais là, le Paris FC qui est avec un projet de montée, clairement, de redresser un peu le club, de redonner une vraie image au club finalement.
Bah de la donner même, parce que le Paris FC, je crois, n'a jamais été en Ligue 1. Enfin non, c'est même sûr et certain, parce que le dernier club en Ligue 1, c'était le Racing Paris 1.
Pas le Red Star qui est...
Non, le Red Star n'a jamais été en Ligue 1. Mais donc c'était dans les années 80. Ouais. C'est la dernière fois qu'un autre club que le PSG a été en Ligue 1. C'est quand même un truc énorme.
Pour concurrencer le PSG, hein. Je pense que le choix de Paris, justement, on va peut-être revenir dessus, est fait pour qu'il y ait une rivalité au sein de la ville, ce qui manquait beaucoup en France.
Et puis aussi parce que le groupe Arnault est ancré dans la ville de Paris.
Oui,
hein. C'est limite la ville de Paris, c'est Bernard Arnault. Hein. Tu te balades sur les Champs-Élysées, je sais pas combien de magasins on a liés à LVMH entre autres. Mais voilà, toi Cédric, tu penses quoi justement de ce fait que à Paris actuellement on a un club, c'est le PSG. Dans d'autres capitales, on en a beaucoup plus. Hein. Londres, 7 clubs de D1, Buenos Aires, 5 clubs en D1, Madrid, 4 clubs en D1, Istanbul, 5 clubs en D1. Voilà, tous ces chiffres, c'est assez énorme. Et dans Paris, qui est l'une des plus grosses capitales du monde, on n'a qu'un club. Est-ce que toi, ça te hype un peu ce projet du Paris FC?
Qu'à moitié.
Pourquoi?
Puisqu'ils sont rendus à combien de clubs acheter Red Bull?
Ah bah alors là, c'est pas actionnaire majoritaire, c'est 15%, donc c'est pas la même chose. Sinon, actuellement, ils ont 4 clubs, je crois. Ils ont Leipzig, New York, Salzbourg et puis Bragantino.
Mais je ouais, pas de bêtises, parce qu'ils sont pas dans, ils sont c'est pas un projet Red Bull hein,
non,
ce sera pas
du tout.
Ce sera
ça
pas, pas acheter galaxie, du ouais. jeune joueur le revendre ouais. comme c'est le projet sur Leipzig.
C'est ça, c'est parce que c'est ça qui peut faire peu, un peu peur sur ce type de club, c'est que ça devienne une sorte de pépinière géante et qu'après ce soit exploité pour faire d'autres, on va dire les clubs élites un peu de la galaxie Red Bull. Donc là s'ils sont vraiment en retrait,
ils sont 15%.
Ils font le complément que why not? Après, à voir réellement si. Alors c'est bien, au moins c'est, on va dire, un rachat français. Déjà, c'est important de le souligner. Après, à voir sur le long terme s'ils auront quand même les reins assez solides pour gérer un club, pour investir dans un club. C'est pas parce que tu gagnes des millions avec ton entreprise que forcément ça va aussi retomber sur ton club de foot. Voir aussi le projet. Pour l'instant,
c'est très flou. Hein, pour l'instant, on a
voilà,
rien.
C'est ça. C'est si c'est pour dire, on va mettre des millions pour essayer de remonter et un jour d'aller en Ligue 1. C'est bien. Le projet effectivement est beau, mais derrière, il faut construire quoi.
Ouais, c'est clair que faut pas que ce soit un projet à but lucratif finalement, que ce soit un business, mais vraiment un projet sportif qui soit monté. Pour voir une rivalité dans notre capitale française comme on en manque hein, comme il y a dans tous les grands les cinq grands championnats, il y a des rivalités intercommunales, j'allais dire, c'est mes études de géographie qui me montent à la tête, mais entre les villes quoi.
Ouais, bah ouais, carrément hein, bah ouais, surtout que là ils ont l'air de vouloir aller vite, c'est bien aussi. Ils se disent prêts à investir 200 millions sur le marché des transferts. Alors c'est cité dès cet hiver. Bon, pour un club de Ligue 2, on va s'abstenir de mettre 200 millions dans le marché des transferts dès cet hiver, je pense, mais ça reste quand même des chiffres forts. T'en penses quoi, toi, Amaury?
Eh ben, moi, je vais commencer par dire que c'est une chose que je voulais qu'arrive depuis pas mal d'années, parce que sur FIFA 21, j'avais fait une carrière avec le Paris FC, et au bout de 7 saisons, j'avais joué une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid avec le Paris FC, que j'avais perdu. Du coup, j'avais arrêté. Mais voilà, pour
donc,
dire que...
Donc, résultat, c'est un mauvais investissement.
Bah, si dans 7 ans, le Paris FC est en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid et qu'on perd contre le Real Madrid...
C'est que FIFA est très réaliste.
On sera quand même plutôt
joue
content.
Joue au loto dans ces cas-là. Ça sera plus simple.
Mais non, donc c'est ouais, je trouve ça formidable quand même, moi, d'un côté, qu'on puisse avoir un derby en France, parce que en France on parle de derby avec Saint-Étienne-Lyon, on parle de derby avec
un vrai derby au sens propre
dans le Nice-Monaco, etc. On n'a pas un seul vrai derby en France sur deux clubs d'une même ville. Ce qu'on a dit, il y en a partout en Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, partout. Et donc même si évidemment pour les premières années ça risque d'être déséquilibré, Paris risque de toujours dominer, Paris, le PSG risque de toujours dominer. Moi ça me hype, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Maintenant il faudra être patient avec le Paris FC, je pense. Il faudra surtout pas attendre tout de suite que le club soit dominant. Maintenant ils ont fait un bon début de saison en Ligue 2, déjà ils sont leaders. On a eu cet été le transfert surprise de Maxime Lopez. Alors
il a tout gagné hein.
Qui est venu aussi pour jouer avec son frère hein. C'était une belle histoire du mercato. Mais donc Maxime Lopez qui doit être heureux.
Il a vu du flair, on peut ça. Dire ça.
Peut-être qu'il avait aussi entendu parler de l'histoire avant, on n'en sait rien. Mais beau projet, en espérant qu'il monte rapidement en Ligue 1 et que
peut-être dès la fin de cette année, saison, surtout avec
j'espère
ce qui est prévu pour le
dès cette saison
hiver.
Et que derrière il puisse investir et tout de suite devenir un club au moins de milieu de tableau de Ligue 1, puis après au fur et à mesure pouvoir aller jouer l'Europe et peut-être dans quelques années être un candidat aux premières places.
Et investir dans les installations. Mm-hmm. Parce que ça aussi, ça va être important pour la montée en Ligue 1. Je sais pas si actuellement le stade où ils sont, il est aux normes.
Ils iraient plus du côté de Jean-Bouin que j'ai entendu parler.
Oui, c'est ce que j'avais entendu vaguement.
Ce serait quelque chose. Hein.
Après, d'ici là.
Ce serait incroyable. Deux matchs à Paris.
Ils vont
ça,
peut-être déménager au Parc des Princes.
Pouvoir enchaîner les deux matchs l'un après l'autre.
Hidalgo, voilà.
Ce serait ouais, quelque chose d'impressionnant à voir. Je sais pas, Paris FCOM d'un côté et PSG Lyon de l'autre.
Et une frappe de Dembélé qui est tellement pas cadrée qui arrive à Jean-Bouin.
Non bah ouais, donc je pense que c'est plutôt un bon projet. Ouais, je pense qu'on est tous unanimes par rapport à ça autour de la table, et puis un projet français en France. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Je te laisse reprendre la main sur le JT international.
Ouais.
Amaury.
Je voulais aller direction l'athlétisme où les spécialistes du marathon se posaient depuis quelques années une question: qui des femmes avec les 2h10 ou des hommes avec les 2h allait franchir cette barrière mythique en premier? sachant qu'il y a peu de temps encore, ça paraissait totalement inimaginable, eh bien la réponse est tombée ce week-end grâce à la Kenyade Ruth Chepngetich, désolé si je prononce mal son nom, qui a littéralement explosé son propre record du monde du marathon en réalisant un chrono stupéfiant de 2h, 9 minutes et 47 secondes hors du marathon de Chicago. Cette performance donc est tout simplement exceptionnelle, sa domination de ses adversaires l'est tout autant, car elle a creusé un écart de 7 minutes et 35 secondes sur l'éthiopienne Soutoumé Kebede, sa dauphine. Ce record marque donc un tournant dans l'histoire du marathon féminin et un véritable rapprochement du niveau entre les hommes et les femmes, car c'est la première fois de l'histoire qu'on compte moins de 10 minutes entre les deux records du monde. J'enchaîne avec du rugby. Si je vous parle de rugby, je vous dis ministre de l'Intérieur, ça vous parle les gars ou pas?
Non. La porte.
Antoine Dupont, ça vous, le surnom, ça vous parle pas? Bon. Pas grave. En tout cas, Antoine Dupont était de retour ce week-end sur les terrains pour la première fois depuis son titre olympique avec les Bleus du rugby à 7. Et que on a d'ailleurs eu l'occasion de commenter cet été. Et comme souvent avec le Toulousain, le retour a été réussi. Entré à 35 minutes de la fin du match, il a marqué un triplé. En 12 minutes en plus, ce triplé. Victoire 48 à 14 hein, contre Clermont pour Toulouse. Dans les autres résultats, le leader Bordeaux Blague a soigné son goal average en s'imposant 66 à 12 contre l'USAP. La Rochelle, de son côté, s'est inclinée lourdement contre Bayonne 37 à 7. Les Bayonnais qui ont d'ailleurs inscrit un essai magnifique, si vous l'avez pas vu, foncez le voir, c'est beau. Et enfin, Van qui a répété l'histoire encore une fois, on arrive à mener. Puis on craque à la fin. Défaite 26 à 24 pour les Bretons contre Montpellier, qui malheureusement sont derniers du championnat. De belles choses de proposer presque chaque week-end, mais niveau comptable, c'est compliqué.
Je pense que c'est le club coup de cœur un peu de pas mal de monde, Van Cesse. Voilà, petit bug micro. Ah, je crois que c'est le micro qui bug parce qu'il est allumé.
Bon,
si on peut faire un souche de micro. Hop.
Ouais, non, bah du coup c'était juste pour dire que ouais, le projet il est quand même assez intéressant dans le rugby et très ambitieux d'ailleurs. Donc je pense que ouais, on peut tous se voir dans ce projet-là. Ouais.
À voir si vont réussir à relever la pente.
On termine très rapidement avec du volley. On a tous entendu parler de l'arrivée d'Erwin Engapet à Poitiers cet été. Oui, c'est sur cette fin d'été, début septembre. Et malgré le fait que tous les maillots vendus se soient magnifiques, que les salles soient pleines, fallait des victoires. Et Poitiers enchaîne depuis le début de saison. 3 victoires en 3 matchs. Ce week-end, c'était face à Saint-Nazaire, vainqueur du championnat l'année dernière, 3-7 à 0. Erwin Engapet à Poitiers, l'histoire est belle. Ça gagne, ça ramène du monde dans les salles. C'est parfait pour le volley français qui s'était déjà illustré aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous voulez réagir rapidement, les garçons, là-dessus?
Je suis pas trop suivi, mais en tout cas, c'est bien, ça ramène aussi l'actualité dans le coin. Donc,
oui, en plus.
C'est, voilà, après, pas forcément la région où on s'attendait le plus à ce qu'il débarque. C'est bien pour la promotion du volleyball en France. Donc, on peut que se régaler de ça.
Maintenant, on espère qu'il va rester un peu plus que 3 mois, car on connaît la clause dans son contrat qui fait que ça pourrait s'arrêter rapidement.
Si au bout de 3 mois, il sait pas quoi faire, hein, on lui trouve une petite place le mardi.
Voilà, pour ce qui est de l'actualité, on va vous laisser.